Seigneur, je viens te remercier dans le nom de ton fils Jésus pour ce temps qu'on a ce soir. C'est encore pour ta gloire qu'on est ici, Seigneur. Puis je te remercie pour le bon temps de louange. Je te remercie pour les prières qu'on va avoir. Je te remercie pour le partage de ta parole. Qu'on puisse être encouragé par ta parole. Qu'on puisse avoir les yeux ouverts sur ce qu'on vient d'entendre, Seigneur, d'un témoignage pour voir que tu es là. Puis que tu veux nous fortifier. Puis tu veux nous donner aussi des promesses pour qu'on ait encore plus de courage pour avancer. Fait qu'on remet nos vents entre tes mains, Seigneur. Parle à nos cœurs par ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Le petit partage que je vais vous amener est comme une suite de ce que je vous ai amené au début de la semaine. Puis le titre du message, c'est l'abondance de joie dans la prière. Dans Jean 16, au verset 16, au dernier message que je vous ai amené, j'ai parlé que Jésus dit, j'ai encore plein de choses à vous dire, mais vous pouvez pas les porter maintenant. Je m'en vais, puis je vais vous donner le Consolateur, l'Esprit Saint. Lui va être avec vous, il sera en vous, puis il va vous conduire dans toute la vérité. Ça, c'est un résumé de qu'est-ce que j'en ai. Là, ce texte-là qu'on va lire, c'est comme juste après. Là, Jésus est en train de dire à ses disciples, encore un peu de temps, puis vous me verrez plus. Il y a encore un peu de temps, et vous me verrez, parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, « Que signifie ce qu'il nous a dit? Encore un peu de temps, et vous me verrez plus, et puis encore un peu de temps, et vous me verrez, et parce que je vais au Père. » Il disait donc, « Que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps? Nous ne savons de quoi il parle. » Jésus connut qu'il voulait l'interroger. Il leur dit, « Vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit, encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et encore un peu de temps, et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez, et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. » Il dit, « La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » C'est un très beau passage que le Seigneur a partagé avec ses disciples. Mais le Seigneur avait un enseignement à donner à ses disciples dans tous ces discours-là. Jésus est en train de leur dire que là, dans pas long, il s'en va. Puis là, vous allez être triste. Là, vous allez tomber dans une tristesse, en plus de tout ce que vous allez vivre dans votre vie. Mais les disciples, quand ils ont entendu cette parole-là, comme qu'on disait dans la dernière enseignement, il dit, il y a des choses que j'ai à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant, mais vous les comprendrez plus tard. Suite après, il lui dit, il faut que je m'en aille, puis là, il comprenait pas. Tu vois que Jésus avait raison, qu'on est limité en tant qu'humain de comprendre vraiment le vrai plan de Dieu. Les disciples, non seulement qu'ils ne comprenaient pas, mais ils s'en faisaient de ne pas comprendre. Ils se questionnaient, puis ils avaient des inquiétudes, puis là, ils se parlaient entre eux autres, puis là, ils se relançaient avec cette parole-là, puis ils disent, c'est quoi qu'il veut dire? C'est quoi qu'il est en train de nous dire? Puis là, ils se posaient des questions, ils cherchaient une réponse. Puis se parlant entre eux autres, puis c'est comme s'ils se nourrissaient d'inquiétude un l'autre. On ne comprend rien. Il nous a dit quoi qui est incompréhensible? Ça nous arrive-tu à nous qu'il y a des moments dans notre vie qu'on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe? Puis là, on se met à s'inquiéter. On se met à se poser des questions, on parle à notre femme, puis on commence à y expliquer qu'est-ce qu'on a sur notre cœur, puis on se vide sur elle. Je comprends pas qu'est-ce qui arrive, puis je comprends. Puis là, on s'inquiète, puis on se relance un l'autre, puis on serait porté à s'entraîner dans un courant de découragement. C'est la nature humaine qui est faite comme ça. Ils ont simplement réagi en tant que l'humain. Quand on n'est pas en contrôle des situations, ça nous inquiète. Les humains, on a comme une sécurité quand on sent qu'on mène notre barque à notre manière. On mène notre vie, on s'en va dans notre plan. Là, on sent comme une petite sécurité. Mais c'est pas là-dedans que le Seigneur veut nous amener. Il veut pas qu'on se sente en sécurité parce qu'on a le contrôle sur nos affaires. Il veut qu'on apprenne à lui faire confiance à lui. Si le Seigneur nous dit quelque chose, comme on a dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité, puis il va même vous enseigner les choses à venir. Parce que c'est son plan de nous amener à bon port. Mais en tant que chrétien, quand tu lui donnes ta vie, il va t'emmener dans une zone que c'est pas ta zone de confort. C'est pas ta zone de sécurité. C'est pas c'est qu'il sort de ton contexte humain normal, puis il t'amène d'une position qui est d'apprendre à dépendre de lui. C'est là qu'on peut dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Quand tu embarques dans son dessein, dans son plan, là, tout ce qui t'arrive est pour ton bien, même si ça semble aller mal. On comprend pas que qu'est-ce qu'on est en train de vivre, c'est pour notre bien. Mais le Seigneur veut nous apprendre à dépendre de lui. Il veut nous apprendre à lui faire confiance. Il veut nous amener, si tu veux être solide dans la foi, là, que même si tout va mal, ton cœur il est comme ancré, comme dans un ancre solide, puis t'as confiance. T'es en paix, même si tout est troublé. Mais l'humain, lui, comprend pas ça. L'humain s'inquiète, s'agite, il en parle avec d'autres, puis là, on s'entretient les uns les autres, puis on s'entretient plus à se décourager qu'à s'entraider, humainement parlant. Mais, ce que je vois d'extraordinaire dans ce verset-là, c'est que le Seigneur, tu n'as même pas besoin d'y poser une question qui donnait des réponses. Le Seigneur, lui, tous, pendant qu'eux autres étaient en train de s'entretenir puis de s'inquiéter ensemble, tant que le Seigneur a une parole de connaissance, il savait de qu'est-ce qu'il était en train de parler. C'est ça que ça nous dit. Le verset 19. Jésus connut qu'il voulait l'interroger. Il n'a même pas encore posé la question. Il s'en venait pour aller lui demander, « C'est quoi que tu veux nous dire, Seigneur, qu'encore un peu de temps, tu t'en vas, puis encore un peu de temps, on va se revoir, puis notre cœur... » Il ne comprenait pas, mais il s'en venait pour l'interroger, Jésus avait déjà la réponse, prête à lui donner, avant qu'il pose la question. Ça revient à dire que ce que notre sœur nous a dit tantôt, le Seigneur, il s'arrange toujours pour faire des petits signes, pour montrer qui ce qu'il est, puis montrer comment ce qui est grand, comment ce qui est puissant. Il te fait un petit miracle, un exaucement de prière. Il te révèle, comme là, dans ce cas-là, il a révélé qu'il savait toute chose, puis il lui a dit la réponse, avant même qu'il pose la question. Il voulait, comme le dit, lui montrer, inquiétez-vous pas, je sais ce qu'il en est, puis il sait ce qui va arriver. Mais qu'est-ce que je vous dis là? C'est parce que j'ai les révélations de mon Père. Soyez rassurés que c'est pas de moi en tant qu'humain, c'est le Père qui vous donne tout cela. Là. Soyez rassurés que je suis en contrôle dans un sens de ce qui va se passer. Il faut rassurer les disciples. Même si tu n'as pas la réponse pour les pourquoi de toute ta vie, pourquoi ci et pourquoi ça, au moins de sentir que tu sais que Dieu lui sait pourquoi que tu vis ça, c'est déjà rassurant. On peut pas tout comprendre pourquoi qu'il nous arrive ci, puis pourquoi qu'il nous arrive ça, mais quand que ça l'arrive, si tu as confiance que Dieu a tout entre ses mains, cette confiance-là, c'est ça qui glorifie Dieu. C'est un fruit pour Dieu, quand on est arrivé à y faire confiance en toute chose. Quand Jésus a vu leur énervement, Jésus a cherché à les rassurer. Il leur a donné une réponse au moment où ils en avaient besoin, puis même un petit peu même avant qu'ils posent la question. C'est-à-dire, le Seigneur, il sait comment agir dans nos vies pour pouvoir nous consoler et nous rassurer. La preuve de ça, dans un autre passage, je n'ai pas obligé d'y aller, c'était dans Jean 2, au verset 11, à Cana, quand Jésus a changé l'eau en vin, les gens étaient loin de croire que Jésus était le Messie, là. Il était juste, ils l'ont commencé à le suivre, mais sans comprendre plus qu'il faut. Il était à la fin de leur vie, là, puis il est encore dans le doute. Mais au noces de Cana, ils ne comprenaient pas encore qu'est-ce qui était Jésus, mais ça nous dit que Jésus il a manifesté sa gloire en faisant ce miracle-là, et ses disciples crurent en lui. Quand il a changé l'eau en vin, Jésus a fait exprès de changer l'eau en vin pour montrer sa gloire, pour la manifester, pour que tout le monde voit comment ce qui, que Dieu habite en lui. Puis ce miracle-là de changer l'eau en vin, c'est dans le but d'amener la foi en lui. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent. Ça veut dire que le Seigneur est voué ce qu'on est en train de vivre, puis il est capable de manifester sa gloire et de faire un miracle afin qu'on croie encore plus en lui. C'est comme si plus que tu veux apprendre à connaître le Seigneur, plus que le Seigneur va faire des choses dans ta vie pour que tu y croies encore plus. Ta foi va s'en aller en augmentant. C'est de même que ça marche. Si on comptera depuis le début, là, les expériences, depuis le début de notre conversion, là, depuis le début qu'on a décidé de donner notre vie au Seigneur, les signes, les prodiges, les miracles, les exaucements de prière, jusqu'à aujourd'hui, ma foi est bien plus grande que quand je me suis converti. Puis cette foi-là, parmi, je suis encore là 30 ans plus tard. Puis c'est la même chose dans vos vies. Le Seigneur veut manifester sa gloire, puis il veut que vous, en tant que disciple, vous croyez en lui, puis vous mettez votre confiance en lui. Amen. Jésus leur a dit, par exemple, là, c'est comme s'il est en train de leur dire, là, je vous donne la réponse, là, encore un peu de temps, tout ça, là, il est rassuré, puis il manifeste ses signes pour leur montrer qu'il est là, puis qu'il sait toute chose. Il dit, allez avoir des temps difficiles dans la suite. Ça, là, Jésus, il n'a jamais nié que la vie chrétienne était pour être dure. Il n'a jamais nié ça, Jésus. C'est dans, même dans ce passage-là, au verset 20, il dit, en vérité, je vous le dis, il parle à ses disciples, vous pleurerez, vous vous lamenterez, puis le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse. Il n'a jamais dit que ça n'arrivera pas. Mais votre tristesse se changera en joie. Un disciple, là, il est appelé à souffrir, c'est vrai, mais pas pour tout le temps. C'est juste pour un temps. Dans la souffrance, Dieu parle à notre cœur et il nous apprend à lui faire confiance. Mais il y a un moment où ce que notre joie arrive, quand que le Seigneur se révèle. Vous allez voir dans la suite avec l'idée. Il dit au verset, même au verset 20, là, encore dans cette idée-là, Jésus est en train de lui prophétiser que les disciples étaient pour avoir beaucoup de tristesse, puis que le monde était pour rire d'eux autres. Ça parle de toutes leurs souffrances, leurs persécutions. Si tu regardes la vie dans les Actes des Apôtres, ils ont été mis en prison, il y en a qui se sont fait assassiner, se sont fait lapider, se sont fait rire d'eux autres, se sont fait passer en jugement devant des rois et des gouverneurs. Les disciples, là, à Jérusalem, il y a eu une persécution à Jérusalem, tous les disciples ils ont été obligés de fuir Jérusalem. C'est là qu'après ça, ils ont commencé à évangéliser les autres villes. Ils ont tout perdu, leur maison, leur bien, leur travail, leur sécurité. Les disciples ont quitté Jérusalem dans les Actes. Ils ont fui sous la persécution. Souffrance. La difficulté. Nous autres, on ne connaît pas ça. Ici au Québec, on a comme une sécurité. Mais il y a des chrétiens dans le monde qui vivent ça présentement. Il n'a jamais dit que ça serait facile. Un autre passage que Jésus a dit juste un peu avant qu'il lui dise ça, dans Jean 15, 18, il dit, « Si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, c'est à cause de cela que le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, « Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. » S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Ça paraît dur de se faire dire qu'on est pour avoir des temps durs, mais le Seigneur nous dit ça d'avance pour qu'on croie qu'il sait qu'est-ce qui nous arrive. Il veut qu'on croie, il veut que je le sache. Dieu savait que c'était pour m'arriver, puis Dieu a un plan dans tout ça, puis Dieu va se servir de tout ça pour sa gloire. Puis Dieu est avec moi dans ce que je vis. Dieu, il sait. Il est au courant de chacune de vos souffrances que vous êtes en train de vivre présentement. Il sait, puis il est en train d'agir pour répondre, pour que votre tristesse se change en joie. Au verset 21, Jésus les encourage en essayant de leur dire que leur souffrance ne sera que momentanée. Verset 21, il dit, « La femme, lorsqu'elle enfante, elle éprouve la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. » Quand le bébé est dans ses mains, la femme vient d'accoucher, le bébé est dans ses mains, il y a une joie, là. Je ne sais pas, ça ne m'est jamais arrivé. Mais c'est Dieu qui le dit. Mais moi, je l'ai vu de côté. J'ai pas vu la souffrance autant, mais j'ai souffert par compassion. C'est bien souffrant émotivement. Autre, elle m'a amené un fougère de prendre de l'air. Mais les femmes, ils souffrent. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, je le sais. Parce que c'est écrit dans la Bible, je le sais. Non, c'est parce que on le sait. On l'a vécu. Mais quand que le bébé il est dans ses mains, la tristesse, la joie, la tristesse est partie, puis là, c'est pleurer de joie, d'être content que le bébé est là. La joie qui est là est bien plus grande que la souffrance qu'elle a eue avant. Elle pense même plus à sa souffrance. C'est ça que le Seigneur veut nous faire prendre conscience. Vous souffrez peut-être un peu, mais la joie que vous allez avoir après, ça n'a pas de mesure. Ça n'a pas de commune mesure avec la souffrance que vous avez eue. C'est rien, la souffrance, comparée à la joie qui nous attend. Quand Jésus était sur la terre, dans Hébreux 12:2, ça nous dit que nous autres, il faut avoir les regards sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi. Jésus, là, ayant en vue la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, puis il a méprisé la honte, puis il s'est assis à la droite de Dieu. En ayant en vue la joie qui lui était réservée, ça lui a donné le courage de passer à travers toutes les souffrances de la croix, puis de la honte de la croix. Ça nous dit, il faut qu'on ait les regards sur Jésus, que lui, Jésus, pensait de même, en vue de la joie qui l'attend. Il était capable d'avoir une énergie pour passer à travers de toutes ses souffrances, puis de ne pas abandonner, de ne pas reculer, de ne pas retourner en arrière. Il a accepté son chemin en vue de tout ce qui l'attendait. C'est quoi qui l'attendait? Pas sur la terre, ce qui l'attendait après. D'être assis auprès de son Père dans sa gloire. Puis ça, là, il dit, je m'en vais, vous ne me verrez plus. Après ça, vous allez me revoir, puis votre joie va être complète. Jésus lui a dit au verset 22, il annonce encore que la joie à venir, qu'on va le rencontrer, le Seigneur, elle va être extraordinaire, puis que personne ne va pouvoir nous voler notre joie. Présentement, on s'en fait voler des joies. Il ne faut pas se le cacher. Des fois, on manque les tests. On aurait pu avoir un secours qui vient de Dieu, puis on prend des raccourcis, puis on n'attend pas la réponse de Dieu, fait qu'on est privé d'une bénédiction qui nous aurait augmenté notre joie. Parce que quand Dieu répond à une prière, il y a une joie additionnelle d'être content d'avoir vécu ça, d'être content de partager l'expérience aux autres. Dieu fortifie notre cœur par ses interventions, mais des fois, quand on ne se rend pas à fond, au bout, avec persévérance dans l'épreuve, on manque des joies. Mais il y en a une qu'on ne manquera pas, c'est la celle de son retour. Parce que la Bible nous le dit qu'à un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette, Jésus va descendre du ciel. Les morts qui sont en Christ vont ressusciter. Qui s'en rappelle, qui s'en rappelle pas, c'est pas grave. Les morts qui lui appartiennent, il va les ressusciter. Et nous qui sommes vivants, on va être enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Réjouissez-vous avec ces paroles-là que c'est écrit dans 1 Thessaloniciens. Se réjouir d'avoir hâte, puis mais qu'on le soit, il n'y a personne qui va nous enlever notre joie. La joie qu'on va avoir d'être là, ça va tellement être pétant de joie, là, puis le diable ne pourra pas nous la voler. Aucun de nos membres de notre famille qui nous font la guerre pour essayer de nous faire arrêter d'être chrétien ne pourra nous voler la joie qu'on va avoir d'être dans la présence de Dieu, en présence de tous les ressuscités, puis dans la présence de notre bien-aimé Sauveur, Yeshua. Puis il nous le dit aussi dans 2 Corinthiens 4, 17, « Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Tout ce qu'on vit présentement, chaque petite affliction qu'on vit pour le royaume de Dieu, c'est un poids éternel de gloire qui nous attend. Parce que on ne regarde pas aux choses passagères, on regarde aux choses éternelles. Jésus, au verset 23, pour mettre comme un comble de notre joie, il nous fait une promesse pour qu'on puisse se fortifier dans cette promesse-là. Il dit, « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien quand on va le rencontrer à la résurrection. » Mais là, pour en attendant, là, en vérité, là, il nous a dit des paroles pour nous encourager, pour qu'on se réjouisse, là, mais il nous donne d'autres choses pour qu'on se réjouisse présentement. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Vous avez peut-être des souffrances. On a peut-être des souffrances. C'est vrai. Mais on a des promesses que nul autre a. Des promesses à venir d'une joie que personne ne va pouvoir nous enlever. Puis des promesses pour le temps présent. Jésus a promis que tout ce qu'on demande au Père, il nous le donnera. Puis ça va faire quoi quand on est exaucé? Ça dit, afin que notre joie soit parfaite. Bon, mais là, vous avez la recette d'avoir une joie parfaite. Une joie parfaite, le mot grec que là, c'est une joie complète, une joie abondante. Quand il dit que pour la vie, il donnait la vie, puis donner la vie qu'on soit en abondance, mais là, Jésus nous promet une joie abondante, une joie complète, une joie parfaite quand vous allez être témoin des exaucements de prière que le Père va nous donner. Frères et sœurs, il est là le but. On souffre, c'est vrai. Dieu, il sait. Mais il sait aussi comment manifester sa gloire pour remplir notre cœur de joie et de force et de courage et de le désir de continuer, puis qu'on regarde comme Jésus, qu'on soit prêt à aller jusqu'au bout en ayant les regards sur après. Avez-vous hâte d'être rendu l'autre bord? Amen. La délivrance va être là. Puis la joie complète, une joie que vous pourrez pas enlever, que personne ne va pouvoir vous enlever. Prions. Père, Seigneur, c'est dans le nom de Jésus qu'on est rassemblés en ayant les pensées sur ta parole. Puis on te remercie pour tes paroles parce que tes paroles veulent nous donner du courage, veulent nous donner une vision pour nous faire, pour qu'on puisse avoir un cœur déterminé à aller de l'avant, peu importe les souffrances qu'on peut traverser. Seigneur, merci de nous dire que tu le sais, que ce qu'on vit présentement, chacun de nous, on a des fardeaux ou des difficultés différentes, mais tu les connais, puis tu sais comment faire, Seigneur, pour rendre notre joie complète. Seigneur, toutes les requêtes de prière qu'il va y avoir ce soir, merci de les écouter. Merci de vouloir les répondre. Tout ce qui est demandé en ton nom, je te remercie de vouloir rendre notre joie parfaite. Seigneur, donne-nous de la persévérance. Donne-nous de persévérer jusqu'à la fin en ayant les regards sur ce que Jésus a passé à travers. Je remets le reste de cette réunion dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.